I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains, avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. Sur So Sweet Planet aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ramata Toulaïsi, réalisatrice et scénariste franco-sénégalaise née en France de parents sénégalais. Son premier court-métrage Astel avait remporté le prix SACD de la meilleure première œuvre de fiction, le prix spécial du jury compétition nationale au célèbre Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand en 2022. Et a aussi été primée au Festival international de Toronto, excusez du peu. Son premier long métrage, Banel et Adama, était cette année en compétition officielle du 76e Festival de Cannes. Et à 36 ans, elle est la seule réalisatrice débutante invitée à concourir au mois de mai dernier pour la Palme d'Or et pour la Caméra d'Or à Cannes. Son film Banel et Adama a été lui aussi récompensé récemment par deux prix au Festival international du film de Biarritz, qui a toujours une belle sélection, lui aussi le prix du jury d'étudiants et du prix du jury Passe Culture. Peut-être que j'en oublie. Bonjour Ramata Toulaïsi.
Bonjour.
Bienvenue sur So Sweet Planet. Vraiment, je suis ravie de t'accueillir pour ce très beau film. J'ai vraiment beaucoup aimé Banel et Adama, un film dense, sensible, poétique, puissant, mystérieux et dramatique aussi. Les images sont magnifiques, pas juste de la captation traditionnelle de beaux paysages, on va en reparler, c'était une volonté. Il y a un vrai beau travail de création. La composition cinématographique de tes images d'ailleurs est vraiment superbe. Est-ce que ce film correspond exactement maintenant à ce que tu souhaitais faire au départ ?
Oh non, il correspond encore à beaucoup plus que ce que j'espérais. C'est vraiment, moi j'imaginais vraiment un film non naturaliste. C'était vraiment très important de ne pas aller dans le naturalisme et ne pas aller dans les narrations déjà, dans les narrations habituelles dans la cinématographie africaine. Et c'est pour ça que je voulais aller vers le cinéma du genre, parce que pour moi c'est important d'apporter un nouveau regard et une nouvelle vision des choses sur l'Afrique, et tout particulièrement à travers la culture africaine, le cinéma, la photographie, le théâtre, la danse, et ne pas rester dans le naturalisme. Donc c'est pour cela que mes images sont très travaillées, avec des plans composés, avec plusieurs genres littéraires que je mélange dans la narration, que ce soit le réalisme magique, ou la tragédie, ou la poésie, ou les contes avec les contes des Grimaud. Donc vraiment, ce film regroupe vraiment toutes les intentions que je souhaitais pour ce projet.
D'accord.
Voilà.
Je me demandais, est-ce que tu as toujours eu envie de t'orienter vers les métiers du cinéma, ou est-ce que ce sont des hasards de la vie qui t'ont mené sur cette voie ?
Alors, beaucoup de hasards de la vie. C'est vrai, moi je m'intéresse et je m'intéressais surtout beaucoup à la littérature. Je suis une grande passionnée de littérature. J'ai beaucoup grandi dans une bibliothèque, on va dire. J'y allais tous les mercredis et de la journée et les samedis. Et donc le cinéma me tombe toujours dessus, même aujourd'hui. Au début, j'ai fait des études d'histoire. J'ai fait des études d'histoire parce que vraiment l'histoire, c'est avec la littérature, c'est ce que j'adorais le plus au monde. Et Au bout d'un semestre, j'ai laissé tomber l'histoire parce que je me suis rendu compte que j'avais peut-être un idéal. J'imaginais vraiment qu'à l'université, on allait faire des débats, on allait devenir des sophistes. Ah oui. Voilà, c'est ce que j'imaginais en histoire, alors que ce n'est pas du tout ça. On reste dans un amphi à écrire des dissertations toute la journée. Donc, au bout d'un semestre, j'ai fui l'histoire et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pendant un semestre en attendant la rentrée prochaine et me réorienter correctement. Et donc, je me suis dit, j'aimais beaucoup le cinéma quand même. J'aimais beaucoup les films, les grands films, les blockbusters. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout les films d'auteur. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller en cinéma en attendant. Mais en fait, je suis restée toute ma vie.
Ah oui, tu es allée en cinéma à la fac, tu veux dire, pour finir les 6 mois
Pour finir les 6 mois, mais en fait, je suis restée.
Ah, c'était oui, un heureux hasard, alors.
Vraiment. Un heureux hasard. Oui. Ouais, très, très heureux hasard. Et surtout qu'après, je me suis orientée dans le scénario en me disant que je n'allais jamais réaliser.
Oui, on va en parler.
Mais il y a 3 ans, là. Voilà, m'est tombé dessus aussi.
Oui, alors quelles ont été dans ton parcours les rencontres et les étapes particulièrement marquantes jusqu'à ce film ? Est-ce qu'il y a eu des étapes clés comme ça ? Ça peut être la rencontre avec quelqu'un qui t'ouvre une porte vers quelque chose ou la rencontre avec des œuvres ou...
Alors, il y a déjà une rencontre. La première rencontre, c'est la rencontre avec une œuvre. C'est ce qui m'a amenée dans la culture et dans l'art. C'est Harry Potter. Lorsque j'étais jeune, Harry Potter m'a vraiment ramenée dans l'amour des histoires, de raconter des histoires, de lire des histoires. Harry Potter m'a emmenée dans la littérature et ensuite dans le cinéma à travers le scénario. Et grâce à ce livre et à cette saga que j'affectionnais énormément lorsque j'étais adolescente et jeune femme, j'ai vraiment voulu commencer à écrire des histoires. Écrire des histoires qui n'étaient pas réalistes, écrire des histoires avec beaucoup de magie, beaucoup de merveilleux, beaucoup de fantastique. Et ensuite, ma deuxième grande rencontre, ce fut celle de Éric Névé, un producteur qui est aujourd'hui décédé. Et c'est un producteur de cinéma et qui était beaucoup attaché à l'Afrique. Et c'est ce producteur qui m'a fait connaître le cinéma africain.
Ah oui. Et quand tu dis qu'après Harry Potter, ça t'a donné envie d'écrire, et là, tu avais quel âge quand tu commences à écrire, avoir cette envie en fait de coucher sur le papier des histoires, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Je pense que je suis à la fin du collège, au début du lycée, même si j'ai lu Harry Potter un peu plus tôt, mais cette envie m'est venue vraiment là, et même ce goût pour la littérature ensuite après. Et j'ai commencé par écrire des nouvelles. J'ai commencé par écrire des petites nouvelles et des articles aussi. C'était vraiment toute forme d'écriture, mais c'est vrai que j'écrivais des nouvelles qui se déroulaient dans Paris et dans le métro.
D'accord. Et c'est drôle parce que là, quand tu parles de Éric Névé et qu'il t'a fait connaître le cinéma africain, je dois dire que j'ai trouvé assez savoureuse la petite séquence. J'ai regardé toute ta conférence de presse à Cannes. D'ailleurs, félicitations, hein, parce que c'est quand même un exercice assez difficile d'avoir une salle de journalistes du monde entier en face de soi pour un premier film. T'as été tout de suite dans le grand bain. Hein, c'était quand même... Mais les questions de ce que j'ai vu étaient assez bienveillantes, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Et en fait, j'ai trouvé donc une séquence assez savoureuse, c'est quand on essaie de te faire parler sur les films, la cinématographie africaine qui aurait pu t'influencer, parce que dans la tête, je pense, de la personne qui posait la question, c'était une évidence que ces films-là t'avaient influencé. Et tu dis avec beaucoup de délicatesse que tu admires beaucoup ces films et qu'ils ont certes compté pour toi, mais tu conclus d'une façon assez en assumant franchement que en fait non, ces films-là ne t'ont pas influencé. Donc j'aimerais savoir, quand Éric Névé t'a montré tous ces films africains, est-ce que tu pensais qu'ils étaient peut-être un peu datés ? Bon, le mot peut être un petit peu péjoratif, c'est pas le mot que j'aimerais employer, mais par rapport à aujourd'hui, aux préoccupations d'aujourd'hui, parce que ce qu'on voit dans ton film, bon, le réchauffement climatique, tout ça c'est évidemment des préoccupations d'aujourd'hui qui n'étaient pas forcément dans les films précédents, et la remise en cause de certaines traditions, de la façon dont on représente toujours la femme, de toutes ces questions-là, ça c'est plus ta génération qui l'assume, je trouve, aussi franchement et avec un bel élan, on va dire.
Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est que je me rappelle, j'étais dans les bureaux d'Éric Nevet, ses bureaux de production, parce qu'au bout d'un moment, on est devenus très amis. Et il me dit, bon, qu'est-ce que tu connais du cinéma africain et qu'est-ce que tu as déjà regardé? Et moi, je lui avoue, bah, rien en fait, j'ai encore rien de regardé. Il était totalement, mais totalement désemparé, je me souviens encore de son visage. Donc, c'était le temps où on regardait encore des DVD. Il m'a passé le gros DVD des œuvres complètes, de la filmographie complète d'Ousmane Sembène. Et il m'a dit, tu regardes ça cette semaine. Et donc, en fait, j'ai regardé tous les films d'Ousmane Sembène. Et c'est vrai que, bien sûr, je trouve que quand même si nos thèmes sont vraiment différents, il y a quand même quelque chose de la société qui nous lie, en fait. On raconte des choses de la société, des choses profondes et complexes de la société. Ousmane Sembène, que ce soit avec Le Mandat ou ses autres films, revendique quand même des choses fortes dans la société sénégalaise, aussi beaucoup contre les Français, la colonisation. C'est très politique, c'est très économique, c'est très social. Ça parle de la communauté, de l'individualité, du mariage. Et même si on traite ces thèmes de façon différente, j'ai l'impression qu'on traite quand même de quelques sujets. Vraiment, on a quelques liens et on traite
Oui.
les mêmes sujets.
Quels sont les maintenant après on va parler du film, mais là c'est pour parler un petit peu de toi pour mieux te connaître. Quelles sont les œuvres ou les artistes qui t'ont marqué, inspiré, influencé peut-être déjà si tu veux bien en musique?
En musique, ben moi, quand j'étais jeune, comme j'ai grandi en banlieue, j'écoutais beaucoup de
Oui.
rap. Avec,
Oui.
c'est vraiment notre radio, c'était Skyrock. On écoutait beaucoup Skyrock et on écoutait beaucoup de rap. Moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était rap marseillais, bizarrement.
Ah oui?
La Funky Family. Oui, la Funky Family,
Ayam,
IAM.
oui, Akhenaton et tout,
Voilà,
oui.
c'est ça. C'est ça.
Oui.
J'écoutais ce genre de musique et vraiment tout le rap français. Et j'écoutais aussi beaucoup de rap américain. J'aimais beaucoup Eminem,
Ah
Dr. Dre,
oui.
tout ce rap. J'écoutais aussi un peu de Tupac. Voilà, c'était après avec aussi du rap féminin comme Ivy. Et j'aimais beaucoup aussi Lauryn Hill.
Ah oui.
Voilà, j'étais vraiment dans la soul, le R&B américain, mais aussi de rap et de hip-hop américain.
D'accord. Pas de soul, des choses des 60s, 70s, de toutes les belles voix de l'époque, ou
Ah non,
du rock, ou.
je les ai connus vraiment. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment ça. Quand j'étais jeune, non. Après, c'est des choses. Je vais être honnête. Quand j'étais jeune, on était vraiment dans une période assez rap, et c'est pour ça aussi. Je pense que c'est aussi le rap qui m'a ramené au goût des mots et au goût de vraiment, parce que quand on prend les textes d'IAM, croyez-moi, c'est même d'NTM. Hein, vous voyez les rimes. C'est vraiment très travaillé, c'est vraiment recherché, et je pense que le goût des mots me vient aussi d'ici, même si je me suis jamais essayé au rap, et c'est vraiment un art qui me, voilà, c'est juste à l'écoute, hein, et le hip-hop aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus tard, hein, que j'ai commencé à écouter du blues, du jazz, du Aretha Franklin, voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment sur le tard.
D'accord. Et il y a des personnalités dans les femmes africaines, américaines qui t'ont marqué, même si tu les as découvertes sur le tard, découvertes.
Moi, j'aime beaucoup Lauryn Hill. Je trouve que Lauryn Hill, que j'ai découverte assez tôt avec le film Sister Act, puisqu'elle joue d'abord dans le film Sister Act avec Whoopi Goldberg. Je trouve qu'elle a une voix admirable et qu'il y a un mélange de genres dans sa musique où elle met du rap, elle met aussi du reggae. Et je pense qu'elle a fait un album et au début avec les Fugees. Je l'ai connue avec les Fugees et je pense que c'est vraiment ce. Ouais, c'est Lauryn Hill, c'est vraiment. Mais vraiment dans le style, dans tout. C'est vraiment de l'art ce qu'elle fait. Moi, je connais vraiment comme de l'art. Elle m'a vraiment touchée lorsque j'étais jeune.
Alors en littérature, bon, j'ai déjà vu que tu citais régulièrement Toni Morrison et Maya Angelou. J'adore aussi. Donc, j'ai lu il n'y a pas très longtemps je crois que c'est trois volumes de l'autobiographie de Maya Angelou. Voilà.
Ah, bah oui, je les
Et
ai tous lus
j'ai
aussi.
tellement adoré, c'est tellement. Je trouve que tout le monde devrait lire. Ça devrait être nous, ici aussi, dans nos programmes scolaires, parce que c'est tout un monde, toute une époque, et puis quel parcours incroyable, quoi. Donc, dans les plus récentes, donc je vais te laisser prononcer, parce que c'est très difficile pour moi à chaque fois. L'autrice nigériane,
Chimamanda Ngozi
voilà, qui
Adichie.
est aussi une grande pointure et qui elle est dans les personnes vivantes encore, heureusement. Toni Morrison et Maya Angelou n'étant malheureusement plus parmi nous. On trouve aussi, j'ai vu dans tes références, 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, qui est une belle référence pour ce monde onirique aussi, hein.
Oui, pour le réalisme magique.
Et donc, est-ce que tu peux nous en citer quelques autres ou revenir sur ces personnes-là et nous dire pourquoi, qu'est-ce qui te touche dans leur travail?
Je pense que tu as cité les principaux, vraiment, parce que c'est à chaque fois qu'on me demande, la première personne que je cite, c'est Toni Morrison, ensuite Maya Angelou et Chimamanda Ngozi Adichie. Ce que je trouve formidable dans l'autobiographie de Maya Angelou et dans toute son œuvre, moi, Maya Angelou, elle m'a amenée à la poésie. Là, parce que j'ai commencé la littérature avec les romans jeunesse, ensuite avec des romans adultes, et voilà. Et ensuite la poésie. Et je suis rentrée dans un monde que je ne connaissais pas et que j'ai plongé dedans et j'ai plus voulu en sortir. La poésie, c'est de Maya Angelou, est exceptionnelle, et forte, et vraiment intense. Et au-delà de la poésie, Maya Angelou m'a vraiment aidée, on va dire, grâce à ses autobiographies, à m'élever en tant que femme noire, parce que c'est vrai que dans ses autobiographies elle-même, oui, c'est dans le Tant que je serai noire, son autobiographie qui s'intitule Tant que je serai noire, elle développe une nouvelle perception de ce qu'est l'identité noire, et surtout en tant que femme. Et c'est vrai que son développement à elle m'a aidée à me développer moi-même aussi en tant que noire, et m'a aidé aussi à m'élever. Et je pense que c'est la même chose avec Chimamanda Ngozi Adichie, qui a aidé beaucoup de femmes sur le féminisme, parce que c'est la grande, vraiment, on va dire, la grande connaisseuse du féminisme. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup chez Chimamanda Ngozi Adichie, c'est qu'elle, chacun de ses romans, parce que moi je les ai tous lus, hein, que ce soit ses romans ou ses essais, sont très différents. On peut même pas savoir que c'est elle qui écrit un roman ou un autre, et ça prouve tout son art, et ça prouve vraiment sa force dans son écriture. Moi, j'ai lu Americana lorsque j'étais au Sénégal. Moi aussi, je suis repartie vivre au Sénégal juste après mes études de la FEMIS. Et vraiment, ça m'a. Je pense que ces livres-là, que ce soit Maya Angelou ou Chimamanda Ngozi Adichie, nous aident, nous, les Noirs, à nous reconnaître, en fait, à nous élever. Et aussi à s'accepter, hein. Ne faut pas avoir honte de le dire, parce que elles nous écrivent, elles nous relatent vraiment dans la confiance, dans la force, dans la complexité. Et ces auteurs-là nous voient grands, comme on doit l'être en fait, et nous rabaissent jamais, et nous aident à nous affirmer dans ce monde raciste, on va dire. Et c'est pour ça que j'adore ces auteurs. Et pour Toni Morrison, ce que j'ai apprécié chez elle, c'est le réalisme magique, mais au-delà de ça, c'est sa description et son utilisation de la femme noire dans ses romans. C'est vraiment une auteure qui n'a pas peur de ne pas aller dans le consensuel, qui ne veut pas écrire des femmes noires opprimées, oppressées, fragiles, vulnérables. Ces femmes noires sont complexes, sont fortes, sont des fois égoïstes, sont méchantes, sont horribles, même si elles ont toutes un objectif, hein, mais ce sont des personnages hyper complexes, et elles ont toutes une raison pour survivre, en fait. Elles ont une quête. Je pense une quête de l'absolu dans leur être en tant que femme. C'est pour ça que aussi la quête aussi de Vanelle, c'est une quête de l'absolu aussi dans son amour
Oui.
et en tant que femme. Et voilà. Et je pense que ces trois auteurs afro-américaines et africaines m'ont vraiment aidée à
Oui.
m'affirmer moi en tant que femme noire. C'est au-delà du fait qu'elles m'ont en tout cas moi aidée, je ne vais pas parler pour tout le monde, à me libérer, mais c'est plus que ça. permis de m'élever. Plus que de me libérer, c'est vraiment m'élever, en fait, dans cette
D'accord.
société.
C'est important. Alors,
Oui.
Toujours dans les œuvres ou les artistes qui t'ont marqué, côté cinéma ou série maintenant?
Ouh, alors série, The Wire, sans aucun doute, sans réfléchir. The Wire, c'est vraiment une série créée par David Simon qui est passée au début des années 2000 sur la chaîne HBO et qui relate la vie de Baltimore à travers les quartiers défavorisés, à travers le trafic de drogue et à travers les policiers qui essayent de lutter contre ce trafic de drogue. Et donc chaque saison a un thème. Et ce qui est formidable, par exemple, il y a cinq saisons dans cette série. La cinquième saison, c'est le journalisme. La quatrième saison, c'est l'éducation. La troisième saison, c'est la ville avec la réélection du maire. Et la deuxième saison, c'est les docks. Et la première saison, bon, je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Et la première saison, en fait, on tourne autour de ces policiers, mais toujours en gardant les mêmes personnages et en ajoutant d'autres au fur et à mesure des saisons. Et Baltimore devient un personnage à part entière, en fait, dans cette ville. C'est vraiment l'histoire de Baltimore et comment le gouvernement américain a laissé tomber ces quartiers défavorisés, en fait. Et c'est vraiment une série, c'est l'une des meilleures séries du monde, vraiment. Qui est très juste, en fait, qui est très juste sur la condition des Noirs américains, de comment on les traite, de comment ils sont perçus du trafic de drogue et comment beaucoup tombent dans ce trafic à cause de la pauvreté, à cause de l'abandon, et de comment la corruption des politiciens, la corruption des journalistes, l'éducation, comment les politiciens ont abandonné totalement l'éducation. C'est vraiment une série à voir.
Est-ce que d'autres formes d'art ont compté ou comptent pour toi? Parce que c'est vrai que j'ai vu dans les précédentes interviews, on te demande souvent bon, les références traditionnelles en cinéma, en littérature. Mais en fait, est-ce qu'il y a d'autres formes d'art dans ta vie qui sont importantes?
Oui, il y en a une qui est très très importante, c'est la peinture. J'aime beaucoup l'art moderne, l'art contemporain. Je vais énormément au musée et j'aime beaucoup Van Gogh, par exemple, Edouard Munch, et plus récemment Kerry James Marshall ou Amoah Kobo-Afo. Je m'inspire beaucoup de peinture pour réaliser mes films. Et de toute façon, ça se voit, je pense, dans Adèle et Adama et même dans Astel. Et avec mon chef opérateur, Amine Berada, on est beaucoup allé au musée. On a beaucoup analysé beaucoup d'œuvres, de grandes œuvres, les couleurs. Parce qu'en fait, moi, dans mon film, je voulais vraiment composer des vrais tableaux, en fait. En fait, ce que je fais, moi, dans le cinéma, c'est très drôle. J'aime beaucoup d'art, mais comme je peux pas les faire à l'extérieur, j'essaye de les mettre dans le cinéma. Donc, c'est pour ça que j'écris des poèmes qui sont des voix off dans le cinéma. J'essaye de composer des tableaux comme des vraies peintures dans le cinéma. Et voilà, ça m'aide à être
Oui,
vraiment
c'est un art
créative.
complet finalement pour toi le cinéma. Tu peux mettre tous les autres arts.
C'est ça, mais c'est ça qui est magique dans le cinéma et c'est ça qui est formidable. Vraiment, c'est un art, comme tu dis, c'est vraiment un art hyper complet. La musique aussi, on va peut-être y revenir, mais j'ai énormément été au studio avec le compositeur. On a vraiment travaillé les musiques ensemble. Et c'est vraiment un art où on touche tous les arts et c'est stimulant pour notre créativité.
Pour en finir avec les références, est-ce qu'il y a maintenant des artistes qui sont cultes pour toi? Et si oui, pour quelles raisons? Tout domaine confondu, hein?
Bon domaine. Alors là, je vais partir un peu de, je vais m'éloigner de ce qui est littérature, cinéma, peinture, et je pense que je vais dire Mohamed Ali, parce qu'en fait, j'ai un cadre de lui chez
Oui.
moi, sur mon bureau, parce que moi, j'aime pas du tout la boxe, mais c'est le personnage, c'est la personne que j'admire, son courage, sa détermination, sa motivation et surtout sa confiance. Il avait une confiance en lui, c'est pour ça qu'il s'appelait le plus grand, The Greatest. Il avait une confiance en lui et je pense que c'est sa confiance qui l'a mené là, bah, là où, bon, pas là parce qu'il est mort, mais qui l'a mené où il est arrivé, sommet, vraiment au sommet. Et aussi, ce que j'aime chez Mohamed Ali, c'est ses combats. C'était quelqu'un de très radical. Il avait énormément de combats politiques. Il voulait pas faire la guerre du Vietnam parce qu'il disait que c'était pas une guerre pour les Noirs, parce que le gouvernement américain ne s'occupait pas des Noirs. Alors pourquoi devrait-il s'occuper des Américains? Il a changé de nom pour devenir musulman. Il voulait plus utiliser son nom d'esclave parce qu'il savait que c'était un nom d'esclave. Et c'est vraiment sa confiance et le fait que il y croyait, il avait une foi. En fait, c'est sa foi. Et c'est pour ça que je pense que j'ai ce cadre chez moi, sur mon bureau. C'est que je me dis qu'avec la foi, lorsqu'on a foi en nous, on peut tout arriver. C'est en ça où Mohamed Ali est un exemple pour moi.
Belle référence. Et alors, j'ai eu l'impression, en voyant ton film, que tu avais évolué jusque-là, pas seulement en étudiant les choses louables dans les autres films, ce qu'on fait d'habitude hein, pour s'en inspirer, mais aussi les choses que tu avais aussi étudiées, les choses que tu ne voulais pas ou que tu ne voulais plus voir. Est-ce que tu confirmes? Et si oui, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, je confirme. Je confirme, effectivement. C'est vrai que comme je disais au début, je ne voulais pas plus voir parce que ce genre de films sont nécessaires, mais les films naturalistes, je pense que c'est pas que je ne voulais plus voir des films naturalistes ou des films qui parlent de la société africaine ou des problèmes de la société africaine comme l'immigration, les guerres, le terrorisme, les violences, les oppressions, parce que je pense [S2] Oui. [S1] Que ces films sont très nécessaires, ils sont nécessaires, mais moi je dis juste qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres films. Et le problème, c'est qu'on ne montre pas les autres films. Alors, pour moi, c'était vraiment nécessaire de ne pas faire un film naturaliste et pas un film sur ces sujets-là, parce que je pense qu'il y en a assez. Et il y en aura encore d'autres, heureusement. Mais c'est qu'il faut commencer. Et ça n'a pas commencé par moi. Hein. Je ne suis pas la première. Hein. Je n'ai pas cette prétention de dire que je suis la première. C'est pas du tout. Mais il en faut plus. Il faut beaucoup plus de films de genre. En Asie, ils réussissent très bien. En Europe, ils réussissent très bien à gérer les deux, à faire des films de société et à faire des films de genre. Et en Afrique, un peu moins. Donc, je pense qu'il faut montrer un autre regard sur l'Afrique, montrer qu'on est aussi créatif, qu'on est aussi audacieux, qu'on a une autre vision, qu'on peut avoir aussi une autre vision du monde et qu'on peut faire d'autres films.
Qui peuvent nourrir le reste du monde aussi. Que ça ne soit pas toujours les mêmes films aussi, qui nourrissent aussi le reste du monde.
C'est ça. Et surtout, nourrir le reste du monde, ça veut dire faire des films universels. Et c'est pour ça que j'ai fait cette histoire d'amour, parce que je voulais que cette histoire d'amour parle aux Africains, mais pas que. Que cette histoire d'amour parle vraiment à tout le monde, comme oui. Roméo et Juliette parle à tout le monde aussi.
Alors, tu as suivi une formation de scénariste à l'école de cinéma, la célèbre école de cinéma parisienne, la FEMIS, dont tu es sortie diplômée en 2015. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre une formation de scénariste plutôt que de réalisatrice?
C'est mon goût des mots, mon goût pour la littérature, mon goût pour raconter des histoires. Et je sais qu'on peut raconter des histoires par les images, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus rattachée, on va dire. Je suis liée aux mots, on va dire. Et j'aime écrire, en fait. J'aime raconter des histoires par l'écriture, par les mots, par des métaphores. Et c'est pour ça que j'ai choisi le scénario.
Et tu pensais que pas du tout à la réalisation, ou tu te disais c'est tellement énorme et c'est tellement lourd financièrement, c'est tellement des choses colossales à mettre en place, un long métrage. Est-ce que tu pensais qu'il valait mieux passer par d'autres expériences avant, mais que tu avais quand même dans ta tête l'envie de réaliser un jour et d'arriver là où tu es maintenant?
Pas du tout. Je ne voulais pas du tout réaliser. J'ai toujours refusé de réaliser. On m'a proposé plusieurs fois, que ce soit à la FEMIS ou juste après à la sortie, de réaliser. J'ai toujours refusé. J'ai accepté il y a 3 ans, lorsque cet ami et producteur Eric Neve est décédé. C'est à ce moment-là où j'ai décidé de réaliser ce court-métrage et ce long-métrage en hommage pour lui. C'est pour ça que ça se passe aussi, ces deux histoires se passent en Afrique. Mais c'est vrai que la réalisation n'est vraiment pas une passion première, même si j'affectionne beaucoup et j'ai vraiment cet art. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'est tombé dessus.
Alors, quels ont été les principaux obstacles que tu as rencontrés, je dirais intérieurs et extérieurs, pour arriver jusqu'à ce beau moment d'avoir réalisé un premier long métrage tourné en langue peul qui se retrouve en compétition officielle à Cannes?
Beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Bizarrement, je pensais que le premier obstacle allait être le financement, mais pas du tout. Ce film, entre guillemets, a été assez facile à financer, facile dans le sens où beaucoup de gens nous ont suivis à la lecture du scénario. Ils ont lu le scénario leur a plu directement, donc on nous a suivis très rapidement. Je pense que les difficultés, les obstacles étaient sur le terrain, tourner avec des acteurs non professionnels, tourner au Fouta lorsqu'il fait 50 degrés avec des tempêtes de sable et lorsque toute ton équipe tombe malade. Et vraiment, c'est les conditions climatiques, les conditions sur place, parce que Podor se trouve à 8 heures de Dakar, à la frontière de la Mauritanie, c'est très désertique. C'était vraiment les conditions sur place pendant le tournage qui étaient très éprouvantes, très difficiles. Et c'est vraiment tous les obstacles. On a failli d'abandonner vraiment plusieurs fois ce film pendant le tournage.
Quelle belle victoire, alors, finalement. Alors, je t'ai demandé les principaux obstacles. J'aimerais te demander aussi, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a donné confiance? Peut-être que ce sont des choses qui seront transposables pour d'autres qui voudraient marcher sur tes pas.
Alors, j'ai un unique et bon conseil, je pense, c'est bien choisir son équipe. Si j'ai survécu à ce tournage, vraiment, et je le dis à tout le monde et je le dis à tout le temps, vraiment, c'est grâce à mon équipe, c'est grâce à chaque personne de mon équipe, parce qu'on a vécu toutes ces difficultés, tous ces obstacles, toute cette souffrance, parce qu'on a beaucoup souffert tous ensemble, mais on n'a jamais abandonné. Lorsqu'il fallait pleurer sur l'épaule de quelqu'un, il y avait 1000 épaules sur lesquelles pleurer, et on ne me laissait pas pleurer longtemps. On me disait, tu peux pleurer pendant une minute et ensuite tu dois te relever parce que tu n'as pas le choix. Mais tout ça avec bienveillance, que ce soit mes producteurs, ce soit mon chef opérateur, ce soit mon premier assistant, tout le monde, vraiment même jusqu'au régisseur qui me ramenait des crêpes au chocolat quand j'allais pas bien. C'est très important, on s'en rend pas compte sur le tournage quand ça va pas. Ces petites choses, on sent qu'il y a des gens derrière nous qui nous aident, qui nous soutiennent et qui nous portent. Et voilà, c'est mon équipe qui m'a porté. Sans mon équipe, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas de Banel Adama, il n'y aurait pas de compétition à Cannes. Et c'est pour ça que je ne les oublie jamais, en fait.
Une belle solidarité.
Dans mes interviews et dans mes remerciements.
Tu as dit, je rêvais d'une grande tragédie mêlée à du réalisme magique, à de la poésie, mais aussi au code du conte. Et je me demandais, est-ce que des gens dans des genres très différents, mais en fait, qui me sont venus un peu à l'esprit, c'est justifié ou pas, je pensais à Fellini côté cinéma et en écriture à une jeune femme que j'ai eu la chance de rencontrer deux fois déjà pour So Sweet Planet, qui s'appelle Laura Nsafou et qui développe un monde aussi onirique, de réalisme magique, de femmes fortes, de choses qui sortent un petit peu des cadres habituels et pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration aussi. Je ne sais pas si tu connais. Est-ce que ce sont des univers, est-ce que dans leur démarche, pas dans leurs univers, chacun son univers, mais est-ce qu'il y a des choses qui te parlent dans tout ça, dont tu peux te sentir proche si tu les connais?
Bien sûr, les deux, j'en ai entendu bien sûr parler de Fellini, et c'est drôle, 8 et demi et La Dolce Vita étaient deux films dans nos références avec mon chef opérateur, même si à la fin il en reste rien,
la preuve, puisque j'y ai pensé.
c'est vrai. C'est vrai. Mais c'était vraiment des références. C'était vraiment des références et. Laura Nsafou aussi, qui n'était pas une référence, mais dont j'ai lu le premier tome de Nos Jours Brûlés. Et ce que j'admire beaucoup dans son œuvre, c'est qu'elle, comme moi, essaye de rechercher de nouvelles narrations et de nouveaux récits africains, ne pas aller dans le naturalisme, dans l'écrit. Moi, c'est dans le cinéma et elle, c'est dans l'écrit. Et trouver un nouveau genre raconter de nouvelles histoires à travers de plusieurs genres littéraires et en mélangeant le fantastique, le réalisme magique, l'onirisme, le conte. Et ce qui réussit très bien puisque ces romans marchent très très bien. Donc voilà, c'est vraiment des deux personnalités que je reconnais et dont je me suis, on va dire, de loin inspirée.
Oui. Oui, il y a aussi cet héritage quand même des traditions qui est assumé, mais qui est tellement modernisé, qui est tellement remis dans quelque chose de quasi fantastique. Et en même temps, on en avait parlé pendant l'interview, ça peut paraître fantastique à des esprits oui. français blancs, on va dire, et ça fait partie d'une vraie réalité sur le territoire, là où se passent les histoires. Et ça, je trouve ça intéressant aussi.
Effectivement. Moi, lorsque j'ai lu le premier tome, c'est vrai que le fantastique, il n'est pas vraiment fantastique puisqu'on est en Afrique. Et pour moi, il me paraissait tout à fait normal. Mais en fait, c'est sa façon d'écrire et son écriture qui amène le fantastique dans ces scènes-là. Oui. Mais oui, c'est vrai que le fantastique est déjà très, très, très lié à l'Afrique. Mm-hmm.
Et alors, dans ce monde, justement, très, très poétique, onirique, et où on sort un peu de notre réalité traditionnelle, il y a une très belle scène dans ton film avec une histoire de sirène. Est-ce que tu peux nous en dire plus d'où vient cette scène? Est-ce qu'elle vient de quelque part? Je crois que oui, d'après ce que j'ai lu.
Oui, bien sûr, cette scène vient de quelque part. C'est une histoire que ma mère me racontait lorsque j'étais jeune. Lorsque j'étais enfant, mais bien sûr je l'ai retravaillé un peu à ma sauce, on va dire. Mais cette histoire de sirène et cette histoire de Kunda, qui est censée être dans la vraie vie un arrière-arrière-oncle, qui était censé vraiment parler aux sirènes, et qui ma mère disait que il allait parler aux sirènes le matin et le soir, et qu'il avait ce don là et cette histoire de petite fille qui se noie, c'est une de mes nièces qui malheureusement s'est noyée dans le fleuve de mon village et qui est morte. Et lorsque on en parlait avec ma mère, tout naturellement, elle m'a dit « ce sont les sirènes qui l'ont prise ». Et moi, j'étais là « les sirènes ?» Elle me dit « oui, les sirènes ». Donc vraiment, dans notre village et dans nos croyances, on croit aux sirènes. Les sirènes habitent vraiment dans le fleuve. Et lorsqu'on va au fleuve, ma mère m'expliquait qu'il y a des règles, en fait. Il y a des règles de ne pas souiller le fleuve. Il y a des règles de respecter le fleuve, parce qu'en respectant le fleuve, on respecte les sirènes qui vivent dans les profondeurs des eaux. Et lorsqu'on ne respecte pas les règles, les sirènes furieuses prennent quelqu'un en sacrifice, en fait. Et donc, à partir de toutes ces histoires de mon arrière-oncle Kunda et de ces histoires de sirènes et de ma nièce qui est décédée, j'ai créé ce petit conte.
Et donc, je crois qu'elle te disait qu'en fait, la nature se... Pas se venger, mais quand on l'a traité mal, oui. ce qui est de la bonne sagesse, en fait, aujourd'hui, perdu. Mais... Oui.
C'est vraiment une métaphore, oui, c'est vraiment une métaphore de cela. C'est respectons la nature, parce que lorsque la nature n'est pas respectée, elle se fâche, et quand elle se fâche, il y a des ouragans, il y a des séismes, il y a le réchauffement climatique, il y a un peu de tout. Et c'est vraiment, ce conte-là, c'est vraiment cette métaphore de respecter la nature. Et ce n'est pas le seul endroit de mon film qui dit ça aussi.
Oui. Alors, dans ce film, il y a une actrice et un acteur qui sont les héros principaux, qui sont extraordinaires. Alors vraiment, et cette comédienne-là, elle est tellement impressionnante. Et j'ai été assez surprise d'apprendre qu'ils n'étaient pas professionnels, ni l'un ni l'autre. Et donc, c'était pas un pari un peu audacieux pour un premier film de mettre cette difficulté supplémentaire d'avoir à diriger.
Mais c'était même pas voulu, en fait. Je voulais vraiment des acteurs professionnels, mais j'ai pas trouvé des acteurs professionnels jeunes de cet âge-là, à ce niveau. Et surtout, les Peuls, en fait, ont vraiment une culture du théâtre et pas du cinéma. Et le théâtre est vraiment un jeu très différent. Donc j'étais obligée, j'étais obligée de prendre des acteurs non professionnels. Donc on a sillonné la région avec ma directrice de casting pendant 5 mois afin de les trouver. Mais c'est vrai que même lorsqu'on les a trouvés, c'était un pari audacieux et difficile. Parce qu'en fin de compte, quand on choisit des acteurs non professionnels, ils peuvent être, on va dire, assez bien en casting, mais on ne sait jamais comment ça va rendre à l'écran. C'est très, très différent, donc c'est un pari audacieux. Mais elle aussi, je n'étais pas sûre, mais c'est au troisième jour de tournage. Le troisième jour du tournage, c'est la scène lorsqu'elle voit le bébé, lorsqu'elle pleure quand le bébé accouche. On a tourné cette scène le troisième jour. Et lorsque je l'ai vue durant cette scène, c'est là où j'étais rassurée, je me suis dit, c'est la bonne.
Alors, ton court-métrage, tu l'avais tourné au nord du Sénégal. Dans la même région, si mes sources sont bonnes, que celle où tu as tourné Banel et Adama, Donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette région pour ces deux premiers films?
Ben, c'est la région dont sont originaires mes parents. Donc, c'est une région que je connais assez bien, même si on n'a pas tourné exactement au même endroit. Mes parents sont originaires de Matam, qui est plus à l'est, et nous, on a tourné dans la région de Podor, qui est plus à l'ouest. Mais ce sont tous les villages se ressemblent dans cette région. Sont tous, moi, mes parents ont grandi dans ce genre de village. Quand j'allais en vacances au Sénégal, c'était dans exactement les mêmes villages. Mais pour des raisons techniques, c'était beaucoup plus facile de tourner dans la région vers l'ouest. Et c'est vraiment parce que c'est vraiment ma région, c'est la région de mon enfance, c'est la région de mes parents, et c'est là où il y a toute ma culture et mes traditions.
Oui. Est-ce que tu étais allée souvent au Sénégal avant d'y tourner? Parce que c'est... J'ai lu que tu étais née, que tu avais grandi en France. Alors, est-ce que c'était beaucoup de vacances au Sénégal? Bon, j'ai lu aussi que tu y avais vécu quand même un petit peu, parce qu'on a l'impression que tu fais partie intégrante de cette vie, de ce décor, que tu connais tout ça sur le bout des doigts, de l'intérieur.
Ben en fait, je connais tout ça. C'est vrai que je la connais très, très, très bien, cette vie-là, et ses traditions et cette culture, mais pas parce que je suis allée beaucoup au Sénégal. J'y suis allée. Alors, pendant les grandes vacances, j'y suis allée que 3 fois durant mon enfance, adolescence, pas beaucoup de fois parce que les billets d'avion étaient vraiment très chers avant. Et je suis allée vivre au Sénégal après mes études à la FEMIS, donc à 30 ans. Je suis allée vivre à Dakar. Je ne suis pas du tout retournée dans le village qui est à 8 heures de Dakar, donc j'habitais vraiment en ville. D'accord. Mais je connais vraiment cette culture du bout des doigts parce que les Peuls, donc l'ethnie qui vit au Fouta, sont une ethnie très très traditionnelle, très très communautaire. Donc à la maison en France, on vivait comme au village en fait.
Ah oui.
C'était vraiment les mêmes coutumes, les mêmes habitudes, et c'est pour ça que je connais très bien les habitudes de ces gens-là.
D'accord. Alors, Banel et Adama, donc c'est un film entièrement en langue peul. J'imagine bien que c'était important pour toi, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
C'était important pour moi de ne pas fausser cette histoire. Ça aurait été impossible. Parce qu'on m'a vraiment demandé pourquoi ce film n'est pas en français. Et je me dis, mais ils ne parlent pas en français là-bas. Oui. Bien sûr, aujourd'hui, peut-être qu'ils le comprennent, mais entre eux, ils ne parlent pas français, ce n'est pas possible. Et surtout que mon film est un film intemporel. Il peut se passer dans les années 50, il peut se passer en 1800. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de technologie. Donc, on ne sait pas si c'est avant la colonisation ou après la colonisation. Donc, il était impossible pour moi pour une cohérence. Vraiment simple, qu'il parle en français.
Alors, j'ai lu aussi plusieurs fois, tu dis que l'universalité est une notion capitale pour toi. Qu'est-ce qu'elle représente, cette universalité, pour toi, et en quoi est-elle une notion capitale?
Pour moi, l'universalité représente quand même l'apprentissage et l'ouverture. L'ouverture aux autres, l'ouverture en dehors des frontières. Moi, j'ai beaucoup appris des autres pays, pas en allant dans les autres pays, mais grâce aux films, à la culture, aux livres, aux tableaux, à la musique, parce qu'on nous apportait des choses universelles à travers d'autres cultures. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de refaire la même chose avec des œuvres et du cinéma africain. C'est apporter une connaissance africaine à d'autres cultures, à d'autres personnes, en ouvrant les frontières, en fait. Et c'est pour ça de ne pas rester juste dans des histoires très africaines. Et je pense qu'on peut faire des histoires très africaines, mais tout en étant universel. Et en fait, c'est vraiment ce côté universel qui va nous aider, je pense, à s'ouvrir et à mieux se comprendre, en fait, dans le monde. Juste à mieux se comprendre et surtout... ne pas tomber dans les clichés, dans les stéréotypes, parce que moi, je fais beaucoup de Q&A en ce moment avec la tournée de mon film, et il y a des gens qui ne sont jamais allés en Afrique, et il y a des choses que j'entends, en fait, des choses que j'entends, oui. Que j'ose même
mais
pas
répéter. Mais tu as dit, je fais beaucoup de...
De Q&A. Donc, ça, de Q&A, c'est les questions-réponses.
Oui.
Dans des projections.
D'accord.
Dans des projections, dans des avant-premières.
Des débats avec le public.
Et voilà, c'est ça. Je fais beaucoup de débats avec le public à l'issue de projections de Banel et Adama, du public qui ne sont jamais en Afrique, mais des fois j'entends des choses mais tellement clichés est tellement stéréotype qu'il n'existe même pas, mais qu'on entend juste à la télé ou dans des mauvaises presses, et qu'on se dit c'est bien d'apporter des histoires universelles, en fait, pour vraiment et des nouvelles narrations, pour pas que les gens s'imaginent des choses qui n'existent pas grâce à cause de faux clichés et à cause de faux semblants, oui. En fait. Ouais, c'est pour ça que c'est important pour moi de faire cette histoire universelle, pour, et surtout cette histoire d'amour. Parce que je pense que le plus grand thème universel, bah, ce sont des histoires d'amour, en fait, que tout le monde comprend.
C'est le dénominateur commun, ça, sur toute la planète, oui.
C'est ça. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi de faire une histoire d'amour aussi. Parce que tout le monde peut comprendre, en tout cas j'espère, hein, j'espère que tout le monde peut comprendre les histoires d'amour.
Donc dans le film Banel et Adama, les répliques sont parfois minimalistes mais souvent percutantes. Et il y a une réplique que j'avais notée en regardant le film, et j'ai vu que dans la nouvelle bande-annonce là, qui a été refaite pour la sortie du film, en fait elle a été reprise justement cette phrase, lorsqu'Adama demande à un vieil homme pourquoi le temps change si subitement, et celui-ci lui répond... Tout simplement, il lui répond « parce que les gens changent ». Et je me demandais, ces dialogues, tu les as écrits avec ce souhait qu'ils soient très épurés, ou c'est ta façon d'écrire habituelle, ou il y avait un vrai souhait, une quête d'aller à l'essentiel comme ça ?
Non, c'était une quête, c'est vraiment pas ma façon habituelle, parce que j'écris beaucoup, je parle beaucoup habituellement. C'est même pas... En fait, je pense que c'est parce que je voulais vraiment respecter aussi la cohérence des Peuls, en fait. Les Peuls parlent très peu. En fait, il parle peu, mais en disant beaucoup. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est pour ça que sur mon court-métrage ou dans Banel Adama, il y a plusieurs séquences où ça ne parle pas. Parce que les Peuls ont cette réputation de fierté et d'être dignes, et de ne parler que lorsqu'il faut parler, de parler beaucoup avec des gestes, de beaucoup parler avec des regards et des silences. Ils parlent beaucoup avec les silences aussi. Et c'est ça que je ne voulais pas trahir, en fait. Et c'est pour ça que tout est épuré. Je voulais vraiment respecter la façon d'être des Peuls vraiment à travers ce scénario.
Et tu as voulu rompre avec l'image attendue de l'Afrique, l'image carte postale. Donc au début, on n'est pas trop perdu, on trouve des belles images, des belles couleurs. Ouais. Puis l'image et le son glissent progressivement vers l'aridité, celle qui s'installe peu à peu dans le cœur de Banel, et la sécheresse qui tue petit à petit les animaux et les hommes. Est-ce que ça a été un gros travail en amont avec ton chef opérateur et ceux qui s'occupent du son, y compris de la musique, ou est-ce que c'est après le tournage, au montage, que ça s'est mis en place ?
Alors les deux. Énormément de préparation. Et c'est vrai que je voulais casser les codes carte postale de l'Afrique. Et en fait, je pense que ce que je voulais faire avec ce film, c'est poser l'image qu'on a de l'Afrique et, dans la deuxième partie, casser toute cette image, que ce soit avec l'image, les costumes, les couleurs, le son aussi, hein, parce qu'au début, on entend du bon son, des criquets, des oiseaux, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, et ensuite, on n'entend plus rien. Pareil pour l'image, au début, ce sont des couleurs très harmonieuses, couleurs pastel, très belles, et ensuite, c'est des couleurs éclatantes, blanches, et la couleur, il y a une décoloration de l'image, vraiment, les couleurs disparaissent dans l'image, pareil dans les costumes, il y a une décoloration des costumes. C'est vraiment, je voulais vraiment casser tous les clichés et casser toutes les idées perçues de l'Afrique dans cette deuxième partie. Et tout ça, c'était vraiment une préparation. On a eu la chance d'avoir un directeur artistique aussi sur ce film qui nous a aidés dans toute la réflexion. Le chef opérateur a dû faire beaucoup de tests techniques pour la décoloration. Le Bachar Markhalife, qui a fait la musique du film, qui a composé la musique du film, a commencé à composer la musique sur scénario. Donc, c'est beaucoup de préparation en amont, bien sûr, mais aussi beaucoup de travail pendant la post-prod, que ce soit l'étalonnage avec les couleurs, déformer les couleurs, décolorer le tout, que ce soit avec la musique, beaucoup de travail en studio, que ce soit au mixage, du son aussi. Comment faire disparaître progressivement ? En fait, dans mon film, dans la première partie, c'est la vie, et la deuxième partie, c'est la mort. Donc, comment illustrer cinématographiquement la mort au cinéma, en fait, à travers l'image et le son. Et ça va être toute une réflexion, et c'est beaucoup de réflexion et beaucoup de travail et de recherche.
Et puis, il y a cette déconstruction donc, de l'image de la femme africaine que l'on a, puisque Banel refuse de faire la lessive avec les autres femmes, elle ne veut pas aller travailler au champ avec elle non plus, et surtout, elle ne veut pas d'enfants. C'est quand même un personnage très, très fort, cette Banel.
Oui, c'est un personnage fort, mais c'est surtout un personnage qui gêne et qui dérange, un personnage politiquement incorrect, et c'est voulu comme ça, un personnage quelquefois et souvent antipathique, égoïste, pas du tout empathique, mais c'est vraiment voulu parce que je voulais vraiment faire un film à l'image de Médée ou de Lady Macbeth, vraiment c'est des personnages de Sulla, de Toni Morrison, vraiment c'est des personnages qui me passionne parce que c'est des, ou de Lila dans L'Ami prodigieuse aussi, hein, c'est un personnage, c'est vraiment des femmes mystérieuses, des martyrs, et on sait, des femmes étranges où on se demande à chaque fois mais qui sont-elles? Ce sont des sorcières, ce sont des meurtrières, ce sont des femmes amoureuses, ce sont des femmes sacrées ou ce sont des martyrs, on ne sait pas qui elles sont, et c'est vraiment ça que je voulais, et c'est vraiment des femmes qui, comme Banel, qui sont à la recherche de l'absolu, en fait, l'absolu en tant que femme, en fait, de devoir dépendre de personne, être sans dépendance, n'exister que par soi. Et c'est vraiment le but de Banel.
Banel et Adama s'aiment, mais là où ils vivent, il n'y a pas de place pour les passions et encore moins pour le chaos. Le personnage de Banel souhaite vivre telle qu'elle est, sans se conformer à ce que l'on attend d'elle. Plus on cherche à la faire entrer progressivement dans le moule de la tradition, plus la colère monte en elle et devient pulsion de destruction. On pourrait avoir envie d'adhérer au cheminement de Banel, mais ses frustrations la rendent violente, et puis on découvre qu'elle est aussi assez égocentrée, le village se meurt autour d'elle, et contrairement à Adama, elle ne se sent pas concernée du tout. C'est un personnage vraiment complexe, mais il y a une part de Banel, je trouve, qui est sympathique quand même. Enfin, moi, j'ai entendu en conférence de presse, tu disais que tu avais fait un personnage antipathique, qu'on t'avait dit à la Fémis que c'était une peste, tout ça. Et moi, il y a une part de Banel que je trouve, bah, évidemment, pas la part en fonction de destruction, mais que je trouve assez sympathique. Ce côté rebelle, ce côté de avoir envie profondément de suivre ce qu'elle ressent. Donc, c'est celle qui se rebelle pour vivre sa vie, qui refuse de se conformer au poids des traditions. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette partie du personnage qui est une critique quand même assez féroce de ce poids des traditions qui finit par la faire basculer dans la folie?
Mais je pense que tu la trouves sympathique parce que tu es une femme.
C'est possible.
C'est vrai que beaucoup de gens qui la trouvent antipathique sont la plupart des hommes. Bon, il y a très très peu de femmes, il y en a une ou deux, mais très très peu. Et je pense qu'on est avec elle en tant que femme parce qu'on sait ce que c'est d'être une femme, tout simplement. Mais ce qui m'intéressait aussi de traiter dans ce personnage, comme tu l'as dit, c'est vraiment le traitement de la folie. Je voulais vraiment... le traitement de la folie, c'est vraiment un thème important et central du film. Mais comment notre condition peut nous mener à la folie? Et quel genre de folie? Est-ce que c'est une folie saine ou une folie malsaine? Et jusqu'où peut aller la folie? Et moi, ce qui m'intéressait dans cette violence qui gêne beaucoup de gens et qui ont raison d'être gênés par cette violence, là, je le dis complètement parce que moi aussi, je suis gênée. Même, c'est un personnage de fiction, ne l'oublions pas. Mais ce que j'aime et ce qui est intéressant, c'est que on m'a beaucoup dit dans les débats, après les projections, que Banel a un rapport très lié au caractère de l'homme et Adama est très lié au caractère de la femme, et que j'ai, en fait, c'est vrai que j'ai twisté et j'ai changé les genres, en fait, les caractères attendus aux genres, pour, surtout en Afrique, pour voir ce que ça allait donner. Mais moi, je trouve pas ça normal qu'on puisse dire Adama ressemble à une femme, à les caractères d'une femme, juste parce qu'il est tendre.
C'est quand même incroyable qu'on dise ça, quand même.
C'est quand même incroyable et qu'on dise « Oh, Banel ressemble à un homme parce qu'elle est violente. » Non, en fait, excusez-moi, un homme a le droit d'être tendre. Et moi, je veux un homme tendre. J'espère avoir un homme tendre. Et si c'est moi la violente dans le couple, c'est pas pour ça que je ne suis pas femme, en fait. Et c'est pas pour ça que lui n'est pas homme. Et je trouve que travailler, c'est fait exprès, que j'ai fait exprès d'échanger ces caractérisations, surtout dans ce territoire africain, parce que je sais ce qui est attendu de ces personnages-là, en fait. L'homme, dans les films africains, ont l'habitude d'être méchant, dur, contrôler les femmes dans le patriarcat, mais là, c'est Banel qui contrôle la... Voilà, et Mila, c'est Banel qui domine Adama. Et
oui, je pense que c'est pas que la violence, je pense, qui gêne chez elle. C'est effectivement le fait qu'elle veut être libre, elle veut vivre ce qu'elle estime juste.
Oui, et qu'elle domine Adama, et qu'Adama ne la domine pas. Et je pense que c'est ça le problème qu'ont les hommes avec mon film.
Dernière question, il est question du changement climatique donc, hein, dans ce film quand même, même si ce n'est pas le sujet du film, mais il est là, comme il est là autour de nous et dans la société partout maintenant. On parle souvent de réchauffement climatique sur Sous Suite Planète et de la chute de la biodiversité. Est-ce que ce sont des préoccupations récentes pour toi, ou est-ce que c'est le constat que tu as pu faire là-bas sur place qui t'a inspiré, et qu'est-ce qui t'y a sensibilisé à cette problématique?
Non, non, c'est pas le constat sur place, c'est vraiment bien avant, le réchauffement climatique est bien avant, et là, depuis très longtemps, et on est toujours là, on l'a vu cet été, avec Hawaï, avec la Grèce, avec la Californie, avec l'Asie, et on le voit tous les jours, mais moi, ce qui me perturbe, c'est que c'est les Africains qui subissent beaucoup oui. plus ce réchauffement climatique, alors qu'ils en sont moins la cause. C'est ça qui me perturbe exactement, qui me perturbe vraiment dans le monde aujourd'hui, c'est que c'est vraiment les Africains qui en subissent gravement et qui en subissent les effets, alors qu'ils en sont moins la cause. Et je voulais vraiment, c'est important de parler de ce réchauffement climatique, mais sans en faire un documentaire, sans être direct. C'est pour ça que je l'ai lié. Naïvement, hein, naïvement à l'histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour de Banel et Adama qui apporte cette malédiction et donc le réchauffement climatique. Et lorsque, voilà, on le voit dans la fin du générique, on l'entend en tout cas, la pluie revient parce que Banel, bon, je vais pas spoiler la fin, mais parce qu'il se passe ce qui se passe, et la pluie revient. Mais c'est vrai que ce thème, il fallait que j'en parle d'une façon vraiment très dans la narration et pas dans le documentaire, mais c'était vraiment important pour moi parce que c'est quelque chose qui me préoccupe en ce moment.
Oui, et ben bravo, plus nous serons nombreux à être préoccupés, je crois, et plus on a des chances de réussir à basculer vers un monde un peu plus soutenable que ce qui nous attend actuellement avec les données que l'on a. Pour terminer, les projets en cours, est-ce que tu as déjà des projets en cours ou est-ce que là tu es essentiellement sur justement les projections débats et accompagner ce film qui sort, rappelons-le, après-demain,
le
je
30
crois,
août.
Le 30 août, oui, voilà, on fait l'interview le 28 août, donc le film, il était présenté à Cannes au mois de mai, mais il arrive pour le grand public enfin en salle.
Voilà. Non, pas d'autres projets parce que ce projet, c'est vraiment pour l'instant toute ma vie. Je le présente à travers le monde, je fais des festivals, je fais des projections, je prépare la sortie, le marketing. Et je pense que c'est un projet qui doit être accompagné. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas vraiment le laisser comme ça parce que c'est un film africain. On sait que les films africains sont difficiles à vendre, oui. sont difficiles à être exploités, à être distribués. Il faut les accompagner, les expliquer, faire beaucoup de débats et pour qu'il y en ait plus après, pour qu'il y en ait d'autres après moi qui aient la chance d'avoir beaucoup plus de facilité.
Voilà, très bien. Eh bien, ce film, donc, je rappelle le titre, Banel et Adama, il est en salle à partir du 30 août. Je vais mettre un petit lien vers...
Oui, la bande-annonce sur YouTube. Voilà.
On va mettre la bande-annonce voilà. sur YouTube. Ensuite, à vous de trouver où le film est projeté près de chez vous. Donc, Ramata Toulaye Sy, pour le film Banel et Adama, un grand merci pour ce temps que tu nous as consacré dans ton planning qui est déjà bien chargé avec ce qui doit accompagner justement le film ces jours-ci. Et puis, je l'espère pour toi et pour le film le plus longtemps possible. Après, félicitations à tes deux super comédiens, enfin à tous les comédiens, mais c'est vrai qu'on retient ces deux-là qui sont les plus présents, et à toute ton équipe, et pour vraiment cette formidable histoire qui nous fait rêver au-delà du film lui-même par rapport à toutes les difficultés que vous avez rencontrées et à cet exploit d'être arrivé, non pas à la quinzaine des réalisateurs, enfin dans les sélections parallèles à Cannes, mais... directement sur le tapis rouge en sélection officielle et pour tout ça et pour les prix que tu as reçus depuis. Bravo et merci, c'est encourageant pour beaucoup de gens, je pense, un tel parcours.
Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu.
Bonne continuation à toi.
Merci.
Et j'espère à une prochaine fois pour un prochain film
à
peut-être. À bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de Sous Suite Planète, si cette interview vous a plu, Vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sousuiteplanète.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de Sousuite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.